Romains 8. Romains 8, et on va lire à partir du verset 1. On a eu l'occasion hier de commémorer la vie de Marie Clark. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous, Madame Clark, Suzanne, avec votre famille aussi, et puis de voir comment le Seigneur a agi dans sa vie, puis il a goûté à la grâce de Dieu dans sa vie, puis de partager ça avec vous. C'était bien. On vous offre encore une fois nos sympathies, puis on va prendre le temps de prier pour vous ce matin. Romains 8, on va lire à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, c'était bon. C'est un privilège pour moi de pouvoir m'approcher de ta table ce matin, de pouvoir me rappeler ce que Christ a accompli pour moi à la croix. Du fait que par le sang versé, j'ai obtenu le pardon de mes péchés. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut te rendre toute la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Merci parce qu'un jour tu m'as ouvert les yeux pour que je saisisse ce merveilleux message du salut. Seigneur, merci aussi pour notre frère Marie Clark qui avait accepté ce message et qui est maintenant dans la gloire. Seigneur, tu nous as fait cette promesse de la vie éternelle en toi. Et maintenant, notre frère est devant toi, devant ta face, et il te contemple. Et sa famille est encore ici, Seigneur, et on veut te prier que tu puisses, dans ta compassion, dans ton immense amour, Seigneur, venir entourer son épouse, ses enfants, que nous puissions, Seigneur, manifester la compassion envers ces gens qui vivent ce temps de deuil et que nous puissions manifester ton amour envers eux comme Église. Accorde-leur, Seigneur, la paix en toi, Seigneur, avec cette espérance que M. Clark est dans ta gloire maintenant. Fortifie-les par ton esprit afin qu'ils puissent continuer de vivre pour toi, Seigneur, et s'appuyer sur toi. Et c'est ce qu'on a besoin, nous aussi, de jour en jour, Seigneur, de s'appuyer sur toi afin de pouvoir vivre pour toi. Seigneur, on voit dans ce passage que tu nous as donné ton esprit pour qu'on puisse être vivant pour toi. Puisses-tu ce matin, par ton esprit, venir illuminer nos cœurs afin qu'on puisse comprendre, saisir, non seulement avec notre intelligence, mais avec notre cœur, les merveilles de ta parole, les trésors qu'il y a dans ce passage. Aide-nous, Seigneur, à travers ce passage, à saisir ces vérités afin qu'on les applique dans notre cœur et dans nos vies, afin que tu puisses recevoir toute la gloire, Seigneur Jésus, par nos vies. Tout ce que tu as accompli pour nous, pour tout ce que tu as accompli pour nous, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Que nos vies puissent être le reflet de ta gloire et être un parfum de bonne odeur autour de nous afin que ton nom puisse être connu tout autour de nous. Bénis-nous ensemble ce matin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on arrive maintenant à la fin de cette courte série que j'ai eu un privilège de pouvoir apporter pendant les vacances de notre pasteur Yannick. C'est un privilège pour moi de pouvoir apporter cette série-là. Et en même temps, je reste sur ma faim. Parce que j'aurais voulu continuer dans Romains 8, 9, 10, 11, 12 et le reste. Puis peut-être j'aurais dû recommencer au premier chapitre puis présenter tout. Peut-être un jour dans mon ministère, j'aurai le privilège de pouvoir le faire. Mais j'ai été béni par ça. Et puis peut-être, le Seigneur voulant, dans quelques semaines, un peu plus tard, je pourrais peut-être compléter Romains 8 parce que c'était vraiment bénissant. Ce passage-là est riche. Et aussi, on dirait que ce matin, je vais arrêter comme au milieu de l'histoire. Là. Ça marche pas, là. Mais, enfin, le Seigneur voulant. À travers cette série, on a vu c'est quoi le plan de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on ait le bonheur dans cette vie qu'on a en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on soit heureux. C'est le plan qu'il a pour nous et qu'il avait pour nous depuis la création. Et lorsque Jésus est venu, vers la fin de son ministère, Jésus a dit à ses disciples, et on voit ça dans Jean 15, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Le désir de Dieu, le désir de Jésus-Christ, c'est que lorsqu'on appartient, qu'on lui appartient, c'est qu'on ait cette joie parfaite de pouvoir lui appartenir et de pouvoir vivre pour lui, pour la gloire de Dieu. Et comme je disais au début de la série, ça arrive des fois que la vie chrétienne, c'est pas toujours la joie parfaite. On a des moments plus difficiles, des épreuves, des tentations, des moments plus désertiques dans notre vie spirituelle. Et il fait en sorte que la joie parfaite que Jésus décrit là, c'est pas ce que je vis réellement. Mais on a vu déjà, depuis dans Romains 6, comment on peut arriver à cette joie, à pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est une vie remplie de joie qu'on obtient lorsqu'on se soumet entièrement au plan de Dieu. On a vu ça lors de la dernière prédication et qu'on poursuit sa gloire. Dans Romains 6 et 8, Paul nous explique le mystère de l'Évangile pour pouvoir le vivre au quotidien. Et lorsqu'on replonge nos regards dans ces passages-là, on découvre les merveilles de l'Évangile sous d'autres angles. Et on voit à quel point, oui, le Seigneur Jésus veut notre joie. Et il ne nous a pas juste dit, « Regardez, je vous donne ça, ces instructions-là, puis je veux que ma joie soit parfaite. » Il nous a équipés entièrement pour pouvoir vivre cette joie-là. Et ce matin, on va voir un autre aspect particulier, comment on peut réellement vivre la joie parfaite en Jésus-Christ. Juste pour faire un bref survol de ce qu'on a vu dans le chapitre 6, dans les trois dernières prédications, on a vu que par notre union à Christ, par la foi et le baptême, Dieu nous donne une nouvelle vie en Christ. Et trois aspects de cette nouvelle vie-là, c'était que, premièrement, on est mort au péché, c'est-à-dire que le pouvoir du péché dans notre vie, nous sommes entièrement libres de ce pouvoir-là à cause de ce que Christ a accompli par sa mort. Maintenant, on est vivant pour Dieu et donc nous sommes morts au péché dans un but, dans le but de vivre pour Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu. Et par la résurrection de Jésus-Christ, par union à lui dans la foi et le baptême, maintenant je peux vivre pour la gloire de Dieu. Et vivre pour Dieu veut dire que je suis maintenant son serviteur, son esclave, qui doit vivre pour lui en renonçant au péché, puis en me consacrant entièrement à lui. Cette nouvelle réalité-là, c'est la réalité à laquelle on a pris part lorsqu'on s'est uni à Jésus-Christ. Mais en même temps, on voit que c'est une réalité qui demande des efforts. Ça demande des efforts de pouvoir vivre la vie chrétienne. Il y a une réalité que je suis mort au péché, que je suis vivant pour Dieu, mais en même temps, je dois renoncer à l'influence du péché et me donner entièrement à Dieu comme son serviteur. Donc, il y a un effort pour arriver à cet endroit-là. Mais d'où la capacité de vivre la nouvelle vie en Christ va me venir? D'où me vient-elle cette capacité-là? Est-ce seulement par ma bonne volonté que je vais être en mesure de vivre pour la gloire de Dieu? J'ai pris la décision que j'allais vivre pour Dieu, je vais être capable. Est-ce que c'est comme ça? Comment je vais être en mesure de renoncer au péché, dire non à l'influence du péché, à la tentation dans ma vie, puis à me consacrer entièrement à Dieu? Ma bonne volonté est-elle suffisante? J'espère que vous concluez avec moi assez clairement qu'une bonne volonté, c'est pas suffisant. Et dans Romains 8, on voit que c'est pas par nos propres forces qu'on bénéficie de l'œuvre de Christ pour notre vie, puis qu'on peut vivre la vie nouvelle. C'est pas par mes propres forces que je vais être capable de vivre la vie nouvelle, c'est par l'Esprit que Dieu nous donne qu'on peut vivre pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est celui qui nous rend capables de réellement vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je vais jusqu'à dire que sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. C'est seulement par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, que je suis en mesure de vivre la vie nouvelle en Christ. Et ce matin, on va tenter de répondre à partir du passage. Comment l'Esprit de Dieu nous aide à vivre la nouvelle vie en Christ? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ma vie pour que je puisse réussir à dire oui, pas juste par ma bonne volonté, mais par l'Esprit-Saint, vivre la vie nouvelle que Dieu m'a donnée? Et on va voir l'action du Saint-Esprit ensemble dans Romains 8, et on commence premièrement dans les versets 1 à 4, qu'un des rôles de l'Esprit de Dieu, c'est de nous rendre entièrement justes devant Dieu. En Jésus-Christ, on n'a plus à craindre la condamnation. C'est ce qu'on a vu. Il y a donc, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, plus de condamnation. Et là, déjà, dans ce premier verset-là, Paul est en train de tirer une conclusion, de faire la conclusion des autres chapitres qu'il y a auparavant. Mais c'est comme une conclusion à mi-chemin, parce qu'il va poursuivre en donnant d'autres raisons pourquoi il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que, premièrement, ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui ont été réconciliés avec Dieu par la foi, Romains 5. Donc, j'ai maintenant la paix avec Dieu. Plus de condamnation. C'est plus la colère de Dieu qui repose sur moi, mais j'ai la paix avec Dieu. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont uni, se sont unis à Jésus-Christ dans le foi et le baptême, on a vu dans Romains 6. Ils sont maintenant morts au péché et vivant pour Dieu, et sont devenus esclaves de la justice. Mais la condamnation à cause du péché, c'est la condamnation de notre rébellion envers Dieu. Nous étions, avant l'œuvre de Christ, condamnés. Pourquoi? Parce que j'avais un carré rouge tatoué sur le front. Un carré rouge de rébellion envers Dieu. Je prends pas position ici, ok? Quoique vous pouvez peut-être l'entrevoir. Mais c'est ça quand même. On avait un carré rouge de rébellion envers Dieu. On ne voulait pas se soumettre à la loi que Dieu nous avait établie. Et dès notre naissance, ce carré rouge-là apparaissait dans notre front. Je ne le savais même pas. Un jour, je l'ai su en lisant les Écritures. J'ai vu que par mon cœur rebelle, j'étais rebelle à Dieu. Je suis né en Adam, puis à cause de ma naissance en Adam, j'étais condamné à cause de ma rébellion envers Dieu. Cette condamnation-là, elle ne pouvait pas être évitée par d'autres moyens que celui que Dieu avait mis en place en Jésus-Christ. Et maintenant, par sa grâce, le carré rouge de la rébellion n'est plus là. Mais maintenant, je suis prêt à me soumettre entièrement à Jésus-Christ et à Dieu. Et j'ai maintenant plus de condamnation pour moi à cause que je suis en Jésus-Christ. Maintenant, comme je disais, ce premier verset-là vient faire une conclusion de tout le reste auparavant, mais en même temps ouvre une porte. Parce que verset 2, il va dire « En effet ». Et là, commence à expliquer d'autres choses. « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi et du péché et de la mort. » Alors, Paul va non seulement dire qu'on a été libéré du pouvoir du péché puis de la malédiction de la loi, mais il va aussi dire que j'ai pas de condamnation parce que la justice de la loi a été accomplie en moi. Et là, je comprends que c'est les termes de Paul que j'utilise. Je comprends que c'est pas nécessairement évident à tout comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On va l'expliquer. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? La justice de la loi a été accomplie en moi à cause de Christ. J'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais plus loin, il va dire, verset 4, que « afin que la justice de la loi soit accomplie en nous ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En réalité, qu'est-ce qui était mauvais? C'était pas la loi qui était mauvaise. C'est la chair qui n'était pas capable d'obéir à la loi. La loi de Dieu était bonne. La loi de Dieu est parfaite. Et c'était pas la loi qui avait besoin d'être effacée, c'est mon cœur qui avait besoin d'être changé pour être en mesure d'obéir à la loi de Dieu. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il a effacé la condamnation en effaçant mon péché, en me réconciliant avec Dieu. J'ai la paix avec lui. Il a vaincu le péché et la mort dans ma vie. Je suis mort au péché, maintenant je suis vivant pour Dieu, puis je suis esclave de Dieu. Mais plus que ça, Christ a accompli en nous la loi de la justice. La justice de la loi accomplie en nous veut dire nous a rendus capables d'obéir à la loi et de s'y soumettre. Maintenant, j'ai plus de condamnation en Jésus-Christ. Pourquoi? Non seulement parce que ma faute a été effacée, mais parce que Christ, par l'Esprit de Dieu, me rend capable de me soumettre entièrement à Dieu et d'obéir à la loi. Si je roule à 140 km/h sur l'autoroute 20 en descendant à Québec, je transgresse la loi, puis ça se peut qu'ils me punissent. Je vais avoir la punition. Mais la loi est pas mauvaise. Elle était correcte. C'était moi qui n'étais pas correct. Et puis, c'est pas à cause que j'ai eu un ticket que maintenant je peux continuer de rouler à 140. Non. Je vais me soumettre à la loi. Et maintenant, en Jésus-Christ, ce qui m'était impossible à cause de ma chair est possible à cause de l'Esprit de Dieu, de me soumettre à la loi de Dieu et de lui obéir. Et c'est tout ce que Paul va développer en Romains 8 et qu'on va aller voir en détail. C'est ça qui est difficile des fois avec Paul. Il lance l'idée et il nous shake un peu. C'est quoi tu veux dire par là? On l'explique un peu, on va aller voir maintenant comment l'Esprit de Dieu fait en sorte que la justice de la loi est accomplie en moi puis que je suis capable de lui obéir. Christ nous a entièrement libérés du péché et de la mort par sa mort à la croix. Et maintenant, par l'Esprit de Dieu, il me rend capable d'obéir à la loi. Mais juste pour s'attarder encore un petit peu, quelques instants, sur les versets 2 à 4. Verset 3, Paul est en train d'affirmer qu'il était impossible pour nous d'être affranchis du péché et de la mort par les œuvres de la loi à cause de notre chair. C'était impossible pour nous d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Notre chair était rebelle envers Dieu et c'était impossible. Le problème, c'était la chair et pas la loi. Et j'avais besoin que quelqu'un vienne pour accomplir la justice de la loi pour moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait, verset 3? Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est ce qu'on a célébré tout à l'heure avec le repas du Seigneur. Dieu a envoyé Jésus-Christ qui s'est incarné, qui a pris une chair semblable à nous, semblable à celle du péché dans laquelle on vit. Et Dieu a puni le péché dans la chair pour que la justice puisse régner maintenant. Jésus-Christ s'est rendu semblable à nous et a été puni, condamné pour nos péchés. Il a pris notre place pour qu'on soit libéré. Et en Jésus-Christ maintenant, on est libéré de la loi de la mort et du péché. Maintenant, c'est ce que Christ a accompli. Mais il y a une autre personne dans la Trinité qui intervient. L'Esprit de Dieu. Maintenant, par l'Esprit de Dieu, mon cœur est changé pour que je puisse obéir à la loi de Dieu. La nouvelle vie en Christ, elle peut être vécue parce que la justice de la loi a été accomplie en nous qui marchons selon l'Esprit. Le véritable salut, en fait, c'est pas simplement de paraître juste, de paraître sans péché devant Dieu, mais c'est aussi d'être rendu capable d'obéir à la loi de Dieu, et la justice de la loi devait être accomplie en moi. Et donc, cette nouvelle vie en Christ, je peux la vivre parce que Christ a, et son esprit, et par son esprit, la loi est accomplie en moi. La loi subsiste toujours, je dois lui obéir. Mais par notre chair, c'était impossible de plaire à Dieu. Versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, il y a deux camps ici. Celui où je suis dans la chair ou celui où je suis en Jésus-Christ et j'ai l'Esprit de Dieu. Et dans la chair, qu'est-ce que ça dit, Romains 8:8, le verset 8? Ceux qui vivent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et c'est impossible, par nature, de plaire à Dieu et de pouvoir entrer même dans la présence de Dieu, parce que, comme je l'ai dit, on est des rebelles à Dieu. Et il y a seulement l'Esprit de Dieu qui vient changer. Maintenant, ça se peut qu'il y en ait ici qui n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme leur moyen de salut, qui ont essayé tant bien que mal de mettre en œuvre, faire des bonnes œuvres. Je vais aimer mon prochain. Je vais obéir à la loi par moi-même. Puis comme ça, Dieu va m'accepter. Je ne suis pas si mauvais que ça, dans le fond. Mais c'est pas ça que le passage dit. C'est que tant que l'Esprit de Dieu ne vient pas m'habiter et que j'accepte pas ce que Christ a fait pour moi à la croix, je reste dans la chair. C'est impossible de plaire à Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. Je ne peux pas me rendre juste devant Dieu par moi-même. J'ai besoin de l'œuvre de Christ et de m'unir à Jésus-Christ par la foi, d'accepter ce qu'il a fait pour moi en venant sur la terre, qu'il a pris ma condamnation. Il est ressuscité des morts, puis maintenant il intercède pour moi. J'ai besoin de voir Christ comme celui qui me rend capable d'obéir maintenant et de plaire à Dieu. Par moi-même, c'est impossible. Et peut-être que tu as pensé pendant longtemps pouvoir être capable de gagner ton ciel ou de pouvoir être, je suis quand même un bon gars, donc je suis correct. Il y a deux camps, ceux qui ont accepté Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin de venir à Christ, de reconnaître qu'il y a seulement lui qui peut te lever la condamnation qui pèse sur toi. Et par la foi et la repentance, reconnaître que ta vie passée était sans Dieu, perdue, condamnée, vouée à une mort spirituelle et éternelle, et reconnaître que Christ est venu, a pris sur toi la condamnation qui repose sur toi, et l'accepter par la foi, et dire non à une ancienne vie, et dire oui à vivre pour Dieu. Tu as besoin de venir à ce point-là dans ta vie. Si c'est pas fait, je t'invite à pas trop attendre, à venir à Christ et recevoir son pardon, le pardon qu'il t'offre. C'est l'Esprit de Dieu qui change notre cœur et qui permet qu'on puisse obéir à Dieu. Et lorsqu'on s'unit à Jésus-Christ, on reçoit cet esprit qui nous rend capable d'obéir à Dieu. L'esprit, par l'esprit, c'est possible pour nous d'être affranchis du péché et de la mort et de vivre selon la justice de Dieu. Et en étant libérés par l'esprit, on peut plaire à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Ézéchiel 36. Parce que je crois que Paul, pour expliquer tout ça dans Romains 8, s'inspire ou fait écho à Ézéchiel 36, un moment où Dieu annonce que le cœur des hommes a besoin d'être changé afin de pouvoir vivre pour lui. Ézéchiel 36, on lit souvent en lien avec la conversion, une nouvelle naissance, mais c'est un passage clé pour comprendre qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'avais besoin pour pouvoir vivre pour Dieu. Ézéchiel 36, verset 25. C'est l'Éternel qui parle. Ça dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc, besoin d'être purifié. Deuxième chose, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et qu'est-ce que ce passage le dit? Mon cœur par nature est un cœur dur, insensible à Dieu, insensible à la loi de Dieu. Et puis, il y a besoin d'être changé pour devenir sensible à la loi de Dieu et me soumettre à Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que cela est rendu possible. Dieu change mon cœur et me donne un esprit, verset 27, qui me rend capable d'obéir à ses ordonnances et observer ses lois. Notre cœur était totalement insensible, mais par l'Esprit de Dieu, il est devenu sensible à la loi de Dieu. Et peut-être que vous avez expérimenté des fois dans votre vie ce cœur insensible, un cœur dur. Ça m'arrive des fois d'avoir un cœur dur, encore. Et puis, ça m'arrive des fois avec mes enfants de manquer un peu de patience. Et puis, tu sais, ça arrive, les enfants sont jeunes, ils en font des qu'on appelle des enfantillages. Et puis, des fois, on dit, monte pas sur le divan, puis arrête de sauter, parce que, à un moment donné, tu vas te péter à la fiole, comme on dit. Arrête, continue, puis il obéit pas. Là, un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ce qu'on appelle conséquences naturelles. Dans ce temps-là, quand ça fait plusieurs fois que j'ai répété la même affaire, puis qu'il se pète la fiole, comme on dit, qu'il se pète la margoulette, insensible. Ça m'arrive. Bon, t'as eu ce que t'avais besoin. Yeah! Tu vas-tu comprendre, là? Pas là, prêt à se pencher et dire, bon, tu t'es fait mal, viens, bon, tu vois, puis essayer d'expliquer, tu as une conséquence parce que tu n'as pas obéi à papa, puis Dieu s'est arrangé pour que tu reçoives une punition. De nature, puis par instinct, quand ça fait longtemps qu'on répète, qu'on n'a plus de patience, mon cœur est dur, puis il y a eu ce qu'il avait besoin, dans le fond. Correct, tu sais. J'essaie de travailler là-dessus un peu, quand même. Je pense pas que Dieu est comme ça. Je pense pas que le cœur de notre Père, on va le voir plus loin, je pense pas que le cœur de notre Père est comme ça. Mais ça nous arrive des fois. Puis ça peut arriver d'autres fois dans des situations où on a été blessé par quelqu'un, notre cœur devient comme insensible à cette personne-là. Mais mon cœur était comme ça par rapport à Dieu. Insensible. Parce que mon cœur était dur. Mon cœur était un cœur de pierre. Et Dieu avait besoin d'intervenir pour changer ce cœur-là et me donner un cœur de chair sensible à la loi de Dieu. C'est ce que le Seigneur a annoncé par la bouche d'Ézéchiel, qu'un jour, il viendrait pour changer notre cœur et nous donner un esprit qui nous rend capable d'obéir à sa loi. Parce que par nature, notre cœur est dur comme la pierre, insensible aux choses de Dieu. Maintenant, par l'esprit de vie, Dieu a transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour que la justice de la loi soit accomplie en nous, c'est-à-dire qu'on puisse obéir à Dieu. Ce qui était impossible auparavant de rencontrer les exigences de la loi de Dieu, c'est maintenant rendu possible à cause de l'Esprit de Dieu. Mais c'est quoi la transformation que l'Esprit va opérer dans mon cœur pour que je puisse justement être capable d'obéir à la loi de Dieu? Et c'est là, dans les versets 5 à 13, que Paul va comme décortiquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que c'est la loi de l'Esprit de vie et comment l'Esprit de Dieu vient faire ce changement en nous. Et en fait, versets 5 à 13, l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est entièrement transformé afin de vivre pour Dieu. Et c'est Paul va l'expliquer. Premièrement, Paul va dire, l'Esprit de Dieu fait sa demeure en nous. Versets 9 à 11, pour vous, ceux qui ont accepté Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, même chose en passant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, je pense que c'est clair dans les versets 9 à 11, l'Esprit habite en nous. Donc, il vient changer mon cœur. Et Dieu nous donne cet Esprit, mais cet Esprit-là ne nous est pas donné juste un instant. Il vient faire sa demeure en nous, vient s'établir pour que notre cœur soit en mesure d'être sensible aux choses de Dieu. L'Esprit de Dieu vient aussi nous ressusciter nos corps mortels, verset 11, et nous donner la vie spirituelle, alors que nous étions morts spirituellement auparavant. Maintenant, nous sommes vivants spirituellement par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il vient transformer nos pensées et nos désirs. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et vient faire ce changement d'affection. Avant, je m'affectionnais aux choses de la chair, aux choses du monde, aux choses qui ne sont pas selon Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous et me donne une nouvelle affection, un nouveau focus dans ma vie. Avant, je poursuivais mes propres désirs. Je voulais accomplir les désirs de ma chair, ce que moi je voulais et ce que Dieu voulait, c'était pas important. Mais l'Esprit de Dieu vient changer mon focus et dire, c'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Dieu veut maintenant. Et maintenant, j'ai une affection particulière pour les choses de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu vient faire lorsqu'il vient habiter en nous. Il vient changer notre cœur et nos pensées, nos désirs, pour ne pas affectionner la chair, mais affectionner les choses de Dieu maintenant. Notre affection pour les choses de l'Esprit, c'est un résultat inévitable de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, ce changement d'affection-là ne se produit pas. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui me donne cette affection nouvelle pour les choses de Dieu, puis un désir de vivre pour sa gloire. Avant, je cherchais à me glorifier moi-même. Maintenant, je veux glorifier Dieu parce que l'Esprit vient me changer ma façon de penser, changer mes désirs. Et ce désir-là de plaire à Dieu, ça peut pas venir de nous-mêmes. Ça prend Dieu qui nous le donne, ce désir-là de plaire à Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu agit pour nous donner ce désir-là de l'aimer et dire, Seigneur, je me soumets maintenant à toi. Je me soumets à ta parole. Je me soumets à tes lois parce que tu es digne de recevoir la gloire. C'est pas moi qui dois recevoir la gloire, c'est toi seul. Et par l'Esprit de Dieu, Dieu vient me donner ce cœur-là qui plie le genou devant Dieu. Seigneur, maintenant, ma vie t'appartient. Je veux te plaire. Donc, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous lorsqu'on se convertit au Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu nous transforme nos cœurs et nos pensées pour que nos pensées soient dirigées vers la loi de Dieu, vers l'obéissance à sa parole. Et un peu plus que ça maintenant. Il fait sa demeure en moi, il change mon cœur. faut que ça produise quelque chose maintenant. Il doit y avoir des actions qui paraissent de ça, de ce changement de cœur-là. Versets 12 et 13, on tourne ensemble. Ainsi donc, frères, nous sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et donc, on doit passer à l'action. On doit faire mourir l'affection pour la chair, ses actions, ses pensées, ses désirs. Il dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et donc, comment je suis capable de faire mourir mes mauvais désirs, les désirs de la chair? C'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, non seulement change mon cœur, mais me donne aussi la force pour vivre pour Dieu. On peut vivre pour Dieu maintenant parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à faire mourir les mauvais désirs qui sont en moi, à dire non à la chair et à dire oui à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que c'est possible. Et c'est pas seulement une réalité, c'est une responsabilité maintenant d'obéir à Dieu. Maintenant que j'ai l'Esprit qui me change, j'ai la responsabilité de dire non et oui. Non à la chair, oui à Dieu. Mais la force pour le faire me vient de l'Esprit de Dieu. On peut vivre pour Dieu parce que l'Esprit nous donne la force d'obéir aux commandements de Dieu. De la même façon que la force qui me vient de l'Esprit de Dieu m'aide à faire mourir les actions de la chair, la même force m'est donnée afin de vivre pour Dieu. Mais moi, là, je regarde ça puis je me dis... Seigneur, tu es tellement gracieux envers moi. Regarde ce que j'étais, un mort spirituel, pas capable de lever même un petit doigt pour te plaire. Puis là, tu as vu mon état, tu as envoyé Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, qui a reçu la condamnation pour moi. Puis, par ton esprit, tu viens m'éclairer, tu viens me redonner la vie pour que je puisse vivre pour toi maintenant, qu'il n'y ait plus de condamnation. Mais maintenant, je peux vivre pour toi, pas juste parce que c'est une réalité, mais parce que tu m'as donné la possibilité de vivre pour toi, parce que tu es venu vivre avec moi, en moi, pour que je puisse le faire. Et là, toute l'œuvre de Dieu est mise là en lumière, un pourri spirituel en un vivant spirituel, parce que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus. Et il m'a donné son esprit pour que je puisse lui donner la gloire. Dieu a tout accompli. Aucun mérite à moi. Si je vis pour la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu me donne ce désir-là, puis il me donne la force aussi de vivre. Mais on est influencé, on a des décisions à prendre. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me tourner vers Dieu. Et c'est ce qu'on va voir. Se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, viens m'aider à vivre pour toi. Et c'est ce qu'on voit dans le reste du passage, les versets 14 à 17. Maintenant qu'on possède l'Esprit de Dieu nous a transformés, il nous rend capables d'obéir à la loi de Dieu, mais c'est aussi par l'Esprit de Dieu qu'on est assuré d'une relation privilégiée avec le Père. On voit dans les versets 14 à 17 que par l'Esprit de Dieu, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. On n'a rien à craindre. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on voit ça, entre autres, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On n'a plus rien à craindre maintenant. Verset 15. Ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et cet esprit nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, c'est, dans un sens, la beauté de la vie nouvelle en Jésus-Christ, qui est mise là en lumière. Maintenant, j'ai une relation intime, personnelle, avec Dieu. J'ai rien à craindre. Maintenant, j'ai pas à craindre la condamnation. Et pourquoi je n'ai pas à craindre la condamnation? À cause de tout ce que Christ a fait pour moi, mais en plus de ça, parce que l'Esprit m'est donné, et que l'Esprit me dit à moi, « T'es un enfant de Dieu. » Par son Esprit, Dieu est là dans mon cœur et dit, « T'es mon enfant. » T'es mon enfant. T'as placé ta foi dans le Seigneur Jésus pour être délivré de tes péchés. Tu veux vivre pour moi maintenant. T'es mon enfant. Et ça peut arriver. Parfois que je l'ai vécu dans mon adolescence. Et peut-être que je peux prendre le temps de parler aux jeunes. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, lorsqu'on est en bas âge. J'ai accepté l'Évangile. J'avais 5 ans par la grâce de Dieu. Et je suis convaincu que c'est à l'âge de 5 ans que j'ai saisi l'Évangile. Mais ça n'a pas tout le temps été parfait dans ma vie. L'adolescence arrive, les changements, et puis j'étais quand même un garçon obéissant à ses parents, puis autant que possible. Mais pas toujours, mais quand même. J'ai pas eu de rébellion, c'est ça que je veux dire. J'ai pas eu une grande rébellion, la crise d'adolescence dont on parle, j'ai pas vécu ça. Par contre, il y a quelque chose qui manquait dans ma vie, et puis c'est l'assurance de mon salut. Il arrivait des fois, j'écoutais les baptêmes, tu sais, les témoignages de baptêmes. Puis il y avait des jeunes de mon âge, 14, 13, 14, 15 ans, se faisaient baptiser, puis donnaient leur témoignage. Et puis, à un moment donné, tu entends les témoignages un après l'autre, puis à tous les témoignages, j'ai dit, wow, man, c'était hot, son enfant, lui, quand il s'est converti. J'ai vu une grande lumière, j'ai senti mon fardeau tomber. J'ai senti une paix m'envahir. Mon ami, moi, à 5 ans, j'ai pas vécu ça. Je suis vraiment sauvé, moi, là? Et puis là, des gros questionnements. Pendant longtemps, puis je gardais ça un peu pour moi-même. Si mes parents m'écoutent, parce que je sais des fois, ils m'écoutent, peut-être vous apprenez ça. Mais j'ai vécu ces questionnements-là. Hey, moi, j'ai pas ressenti ça, cette paix-là. J'ai pas senti la grosse affaire, le fardeau tomber, puis... Hey, je suis vraiment chrétien, moi, là? Là, hein, on reprit encore. Puis après ça, tu vois que tu fais des péchés, puis tu t'as repris encore. Je suis pas chrétien, moi. Là, on est tout mêlé. Un jour, le Seigneur, par sa parole, par son esprit, m'a donné l'assurance de la vie éternelle. Un jour, mon père témoignait à une de mes tantes, puis il lisait dans 1 Jean 5,13. Dans 1 Jean 5,13, c'était écrit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Puis là, il a pris, c'est là que ça a touché mon cœur, il a pris le langage, il voulait expliquer le verset. Il dit, « C'est-tu écrit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sentiez que vous avez la vie éternelle? » Non, je vous l'ai écrit afin que vous le sachiez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'ai dit, moi j'ai cru ça. Moi je crois ça. J'ai la vie éternelle. Et je suis convaincu que par sa parole, c'est l'Esprit de Dieu qui a rendu témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, j'en veux plus de me sentir coupable, d'avoir des doutes sur mon salut. Parce que tu dis dans ta parole que lorsqu'on croit en toi, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on est tes enfants. Puis ton esprit, par ta parole, me dit, je suis ton enfant, Alexandre. Et gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et puis maintenant, des fois, je vais juste me mettre en lumière. Alex, c'est-tu par tes raisonnements que tu te convaincs que tu es un enfant de Dieu? Je regarde mon cœur puis je me présente devant la parole de Dieu. Seigneur, je sais c'est quoi mon état sans toi. Je sais que sans toi, je peux rien faire. Tu m'as donné la vie par ton esprit. Tu m'as donné la vie éternelle à cause de ce que Christ a accompli. Sans toi, je t'ai perdu. Maintenant, tu m'as donné la vie. Maintenant, je veux vivre pour toi. Et je pense que c'est cette attitude-là que le Seigneur recherche réellement. Une attitude qui vient de l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est pas celui qui est convaincu par son... Non, non, moi, je l'ai la vie éternelle. Oh, moi, je suis un bon gars. Puis, oh, j'ai cru ça, moi, ces affaires-là. Non. L'Esprit de Dieu nous amène à un endroit où on réalise notre état, où on se voit pécheur, perdu. Sans Dieu, je peux rien faire. Et je vois que Christ est ma solution. Et je le saisis par la foi. Je renonce au péché. Je désire vivre pour Dieu. Il y a une attitude d'humilité dans ça. Pas de auto-justification. Ma justification vient de Dieu lui-même. Oh boy, je suis rendu où, moi, là?
Non, mais c'est... Des fois, parenthèse, puis oups, OK. Mais, non, c'est ça. Je sais que je suis un enfant de Dieu parce que l'Esprit témoigne à mon cœur que je suis un enfant de Dieu. Et lorsque j'examine mon cœur, pas personnellement dans mon coin tout seul, avec mes raisonnements, mais j'examine mon cœur à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, atteste. Tu es mon enfant. Et qu'est-ce que le Seigneur dit aussi en plus? C'est que maintenant, par l'Esprit de Dieu, on a accès à Dieu comme un bon Père. L'Esprit en nous, c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ». C'est un esprit qui nous pousse à nous tourner vers Dieu. Et c'est là un peu le lien, je voulais faire avec l'attitude d'humilité, c'est que « Papa, je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi pour m'aider à vivre selon tes commandements, selon tes lois. » Et ça me faisait penser à ma fille, ma petite fille qui vient d'apprendre à marcher. Et puis quand j'arrive de travailler, c'est tout nouveau parce qu'elle commence à marcher, mais quand j'arrive de travailler, elle court. Puis là, juste ça, là. Oh, wow! Notre cœur fond, là, vous dites, oh, ma fille. Mais c'est des mots d'enfant, là. Elle dit même pas papa, clairement, encore. Mais c'est Abba. Papa, c'est cette attitude-là que le Seigneur met en nous par son esprit pour aller. Puis, papa, c'est, je suis content de te voir, je suis content d'être avec toi, puis j'ai besoin de toi chaque jour pour vivre selon tes lois, pour vivre selon tes commandements. Mon désir, c'est de te plaire, papa. J'ai besoin de toi. L'esprit en nous crie, papa. Et on a besoin de cette relation intime avec Dieu. Par l'Esprit de Dieu, on vient devant Dieu et on crie, « Seigneur, aide-moi. Tu m'as donné ton esprit. Donne-moi la force maintenant de vivre pour toi. » Et réalisant notre besoin, on a besoin de se tourner vers lui dans la prière, de prendre du temps dans la prière régulièrement. Parce que, je vous le dis, en tout cas pour moi, souvent des fois ça va arriver, je ne prends pas le temps de prier le matin, tu sais, les enfants, puis là Nathan a commencé l'école. On prépare l'école, on va le porter, on arrive au bureau, puis même si on est dans le ministère, des fois, c'est « Oh boy, let's go, courriel », puis « Ah ouais, par là, il y a des affaires à faire, il faut gérer le stage, puis toutes sortes d'affaires à faire. » Puis, on n'a pas pris le temps de prier. Puis, à la fin de la journée, j'arrive, « Seigneur, j'ai fonctionné par moi-même aujourd'hui. J'y suis allé par mes propres forces. Je me suis pas appuyé sur la force de ton esprit. » Pas pour dire que ça va arriver des fois dans le milieu de la journée, on s'arrête puis on dit « Hey, qu'est-ce que je suis là? Seigneur, je suis en train de tout faire, de tout gérer moi-même. Là. C'est avec toi que je veux le faire. » Mais on a besoin de ça. C'est parce que on est tenté de vouloir gérer les choses nous-mêmes. On a besoin d'aller au Seigneur, d'exprimer notre émotion, notre désir de plaire à Dieu, de lui demander dans la prière « Seigneur, viens m'aider. » J'ai besoin de prendre ce temps dans la prière régulièrement. Et il y a des chants qui disent le matin, le midi, le soir, je suis avec le Seigneur. Priez sans cesse. Priez à tout moment du jour. Rempli du Saint-Esprit, je me tourne vers Dieu à tout moment pour « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Là, il y a une rencontre qui s'en vient. Je vais avoir à parler avec quelqu'un. Donne-moi les bonnes paroles. Je suis pasteur, je ne suis pas mieux que les autres, là. J'ai besoin des paroles pour édifier, pour convaincre, puis encourager. Seigneur, aide-moi. Je m'en vais annoncer l'Évangile. Je m'en vais rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je sais pas où ce qui est c'est quoi les questions qu'il va avoir. Dirige-moi, Seigneur. J'ai vu le Seigneur diriger. Quand je me mets à genoux, là, wow! Mon genou juste avant, puis tu dis, Seigneur, dirige, utilise-moi par ton esprit. Puis là, je vois le Seigneur agir dans la rencontre. Je dis, Seigneur, merci. C'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin que tu m'accompagnes dans ça. Puis des fois, c'est la souveraineté de Dieu change la situation, des fois inquiétante. Puis là, oups, Dieu a agi. Parce que je me tourne vers lui. Je m'appuie sur lui. Et j'ai besoin régulièrement de prendre ce temps dans la prière, dans la parole. Et dans la parole, dans le but de la prière. Pourquoi? Juste une petite parenthèse, versets 26 et 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On sait pourquoi demander au Seigneur. C'est ça que la parole me dit. Je sais pas. L'Esprit me conduit dans ce que je dois demander au Seigneur. Et lorsque je plonge mes regards dans sa parole, je prends le temps d'étudier la pensée de l'Esprit pour pouvoir prier les bonnes choses. Des fois, on peut prier puis dire, je pense, on est devant une souffrance, puis là, c'est ça que Paul aborde dans le reste du chapitre, on est devant une souffrance, « Ah, Seigneur, enlève donc cette épreuve-là de ma vie. C'est-tu vraiment ça que Dieu veut? » Peut-être qu'on devrait plutôt prier, « Seigneur, je traverse un moment d'épreuve. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, aide-moi à ne pas m'inquiéter dans cette épreuve-là. Aide-moi à m'appuyer sur toi, par ton esprit. Tu as peut-être quelque chose à m'enseigner à travers cette épreuve-là. J'ai besoin de toi pour m'accompagner. Si tu veux l'enlever, comme le Seigneur Jésus dit, si tu permets que la coupe s'éloigne de moi, selon ta volonté, mais si ce n'est pas selon ta volonté, accompagne-moi là-dedans. Des fois, on a tendance à dire, Seigneur, enlève les épreuves de ma vie. Le Seigneur nous forme à travers ça. Il veut nous amener là. Alors, on a besoin d'apprendre à prier selon Dieu, par l'Esprit de Dieu, en découvrant les Écritures, en m'appuyant sur les Écritures, j'apprends à prier comme Dieu veut que je prie. Et me tourner vers papa pour passer à travers mes difficultés. Et finalement, comme enfant de Dieu, on a part à l'héritage de Dieu. Verset 17, nous qui sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et il y a une récompense. Non seulement je sais que je suis un enfant de Dieu, je sais que je suis son enfant, mais en étant son enfant, je sais aussi que j'ai part à l'héritage. C'est une promesse aujourd'hui pour l'éternité. Et maintenant, je sais que la relation intime que j'ai avec Dieu, Dieu va la préserver pour que dans l'éternité, je puisse être héritier de Dieu, vivre ma pleine joie en Dieu et avoir la joie éternelle avec Dieu. Et ça, c'est une assurance qu'on a par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit que je suis un enfant, il me dit aussi que je suis un héritier éternel. Et on a cette assurance auprès de Dieu qu'on a la vie éternelle pour toujours. Et ça demande peut-être, il ne faut pas que je passe à côté du reste du verset, si toutefois nous souffrons avec lui, donc afin d'être glorifiés avec lui, il y a comme une condition, on doit souffrir. Mais je pense que l'Esprit de Dieu, avec tout ce passage-là, me dit, dans la souffrance, je vais t'amener là, mais je vais t'aider à passer à travers cette souffrance-là pour que tu sois un héritier. Et Dieu va nous garder à travers la souffrance. Et on va devoir souffrir, le reste du chapitre va en parler, mais c'est pas une vie chrétienne, la vie nouvelle en Christ, c'est pas une vie facile. C'est une vie des fois qui est la souffrance. Il faut passer à travers des moments difficiles. Mais l'Esprit de Dieu est avec nous, il nous garde, il va nous aider à traverser à travers ces souffrances-là. Donc, la vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est une vie qui peut devenir une réalité seulement lorsque l'Esprit de Dieu fait sa demeure en lui, lorsque on a placé notre foi en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu fait sa demeure en nous lorsqu'on vient à Christ pour obtenir le pardon, la paix, une relation intime avec Dieu. Puis à partir de ce moment-là, notre vie est complètement changée. C'est une vie nouvelle par l'Esprit de Dieu. On est trouvé entièrement juste devant Dieu. On est entièrement transformé afin de vivre pour Dieu, puis on est assuré d'une relation privilégiée avec Dieu. Notre vie change complètement. Et je vous le dis, chaque jour, c'est une vie nouvelle. On vit dans la vie nouvelle. Si tu es blasé de la vie avec Jésus-Christ, je t'invite à revenir régulièrement et à dire, « Seigneur, J'ai besoin que ça soit comme au début, que la lune de miel soit pas finie avec toi. Je veux vivre une lune de miel éternelle avec mon Sauveur puis avec mon Dieu. Seigneur, je viens à toi, j'ai besoin de toi parce que là, c'est plus comme une lune de miel. Mais je veux que ça soit une lune de miel malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré les moments de joie. Seigneur, fais que ma vie éternelle soit une lune de miel avec toi. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Une vie nouvelle chaque jour à vivre pour lui, à travers tout ce qu'il a accompli en Jésus-Christ et par l'Esprit qui habite en nous, c'est possible maintenant de la vivre réellement. On est entièrement équipé pour vivre pour la gloire de Dieu, puis trouver notre joie en lui. Puis ce chant qui me vient en tête, « Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On l'a chanté hier au service de M. Clark. Chaque jour, « Seigneur, à qui irais-je? » C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si je veux vivre cette vie nouvelle, je dois me tourner vers lui, aller vers lui, puiser dans sa parole et crier, « Papa, aide-moi à vivre pour toi. » On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, ça arrive parfois que je vais vivre des moments plus difficiles, des épreuves dans ma vie. Mais Seigneur, comme on l'a vu ce matin dans ce passage et dans les dernières prédications, le passage de Romains 6, Seigneur, tu as tout accompli pour qu'on puisse la vivre réellement, cette vie-là, en toi. Seigneur, c'est parfois difficile, mais on crie à toi. Papa, viens nous aider. Viens nous aider à vivre pour toi, puis à retrouver cette joie qu'on a, cette joie parfaite que tu nous promets lorsqu'on vit pour toi. Seigneur, on veut se tourner vers toi. On veut marcher pour toi. On veut te suivre jusqu'au bout. On attend ton retour, Seigneur, on a hâte à ton retour. On a hâte d'être en ta présence pour l'éternité et que ce corps mortel soit entièrement détruit pour être avec toi et te célébrer, ne plus avoir à lutter. Mais en attendant, Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur toi et à vivre pour toi, coûte que coûte, pour ta gloire à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.